Bienvenue sur Alimente ton sport, un podcast qui se veut un lieu d'échange et de partage sur la nutrition sportive. Je suis Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. J'ai comme mission d'aider les sportifs à développer leur plein potentiel dans leur sport en améliorant leurs connaissances et en développant leur autonomie en nutrition. Avec Alimente ton sport, je souhaite donc te partager mes connaissances et mon expérience en nutrition sportive. Je souhaite aussi échanger avec mes invités sur différents sujets qui touchent de près ou de loin la nutrition, parce que selon moi, on peut alimenter notre sport avec, oui, bien sûr, la nutrition, l'alimentation, mais aussi avec d'autres aspects non négligeables. Merci d'être là, merci de me permettre de réaliser cette mission-là et bonne écoute! Avant de me lancer dans le vif du sujet du jour, j'ai envie de prendre quelques minutes pour te parler de ma formation complètement gratuite, 4 étapes pour réussir tes objectifs de course en sentier. Dans cette formation de 4 jours, je te présente sous forme de courtes capsules mes meilleurs trucs de nutrition pour t'aider à optimiser ton énergie, optimiser ta récupération et tes performances. Si t'es là sur le podcast, c'est que tu sais comme moi que la nutrition, c'est tout autant important que ton entraînement pour l'atteinte de tes objectifs de course. Et si la nutrition, c'est ton maillon faible ou encore si tu souhaites l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, je reçois un entraîneur qui se spécialise en sport d'endurance, mais qui a aussi un très beau background au niveau entraînement musculaire, puis il pratique lui-même des sports d'endurance. Bref, je pense qu'on va avoir des beaux sujets à aborder aujourd'hui. Je suis avec Guillaume Lafleur-Smith. Allô Guillaume et bienvenue sur Alimente ton sport.
Merci beaucoup.
Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. En fait, faut savoir qu'on s'est comme connus dans une autre vie. On s'est connus dans mon ancienne vie quand j'habitais à Montréal et que je pratiquais. Et mon sport principal, c'était le CrossFit à ce moment-là. Puis on s'est connus dans ce contexte-là. Là, aujourd'hui, on va probablement, oui, en parler du CrossFit. J'ai peut-être quelques petites questions pour toi à ce niveau-là. Mais on se voit vraiment dans un autre contexte et que je suis super contente de ça.
Ouais, puis c'est drôle que tu dises que c'était un autre monde parce que moi c'était un monde où j'étais juste dans le travail. Là. Je faisais juste travailler du lundi au dimanche. Puis
Ah ouais.
justement, les sports, ils prenaient le bord un peu. Puis c'était un petit peu le début de ma. Le début et la fin de build. Mais c'est ça. Ça a pris des années que ça a pris. Puis. Justement, c'est ça, c'était comme une nouvelle vie, là.
Ouais. Puis je me souviens pas, dans le fond. Tu sais, je me souviens qu'on s'entraînait au même gym, mais il me semble que tu coachais aussi, là.
Ouais, je coachais au vestiaire, je faisais de l'entraînement privé là, je faisais des cours de groupe, je faisais du remplacement. Je louais aussi à l'époque aussi aux Specific Performance, j'avais d'autres mondes que j'entraînais là-bas. J'avais vraiment un mix de monde, là. J'avais population générale, j'avais sportif de performance, j'avais sportif d'endurance justement, plus un peu plus pour le de manière ludique. Puis là, c'est ça, là, ça s'est filtré un petit peu avec les années, là.
Ouais, ben, tu sais, on a comme déjà commencé à parler de ton parcours, mais tu sais, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire le tournant vers les sports d'endurance, parce que je pense que présentement, tu accompagnes quand même des athlètes de sports d'endurance, mais aussi encore en entraînement musculaire. Tu fais un peu des deux. Peux-tu nous parler justement de ton parcours puis de ce que tu fais présentement, peut-être?
Ben moi, tu sais, comme quand on met le mot sur sport d'endurance, dès que c'est un sport un peu plus extérieur et puis qui peut prendre du temps, ça rentre un peu dans cette catégorie-là. Tu sais, même les sports d'équipe, c'est des sports d'endurance en soi, mais les sports d'aventure, on peut plus décrire le sport d'endurance, tu sais, comme le trail running, le triathlon, toutes les distances de triathlon, la course à pied. Tu sais, il y a tellement de catégories différentes là-dedans. Mais tu sais, moi, dans le fond, j'ai un background justement de natation. Après ça, je me suis lancé dans le vélo de montagne. Quand j'ai arrêté de compétitionner en vélo de montagne, justement, moi, mon but, c'était de vraiment développer une expertise dans le conditionnement, que ce soit musculaire ou spécifique du sport pour le vélo de montagne. Puis moi, j'avais tout mis mes œufs dans le même panier, si on peut dire. Je voulais vraiment développer au niveau de ça, que ce soit l'enduro, le cross-country, puis la descente. Parce que c'est vraiment là-dedans que j'avais le plus gros background, puis j'avais pratiqué le sport pendant au moins 10 ans. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment une grosse lacune dans le sport. Puis à travers les années, j'ai quand même eu beaucoup de difficultés à percer dans le milieu, juste parce que l'entraînement est un peu moins valorisé. L'entraînement externe du sport spécifique, en fait. Et puis, c'est ça qui m'a attiré un petit peu les sports d'endurance qui requieraient vraiment l'entraînement. Tu peux pas tricher un triathlon, tu peux pas tricher un marathon. Ben, tu peux le marcher si tu veux, mais je trouvais que les gens qui décidaient de s'entraîner pour ça, ils voyaient plus de valeur à tout ce qu'ils faisaient dans leur vie pour les amener à une réussite, que ce soit de nouveaux performances ou juste pour le finir. C'est là où ce que j'ai fait vraiment le tournant. Pas que j'entraîne plus du monde en vélo de montagne, mais mon but ultime, c'était ça. Finalement, ça a pris un tournant vers autre chose, mais c'était quand même quelque chose, c'était quand même des modalités qui étaient très similaires. Et c'est ça. Puis ça m'a amené justement à vouloir faire du triathlon également là, depuis 2018. Les dernières années, ça a été vraiment. J'ai eu plus de flexibilité dans mon horaire aussi, vu que je suis 100% remote. Donc, t'sais, je travaille le matin, je m'entraîne, je travaille, je m'entraîne, je travaille, je m'entraîne. Puis c'est un peu ça ma vie du lundi au dimanche. Fait que c'est ça,
C'est
c'est
ça, hein,
là le
l'avantage
lien. Ouais.
de gérer notre horaire, c'est qu'on peut prévoir un peu nos blocs d'entraînement dans l'horaire. Puis des fois, on travaille un peu à des heures pas possibles, mais c'est ça. Ça fait que ça nous permet de mettre nos blocs d'entraînement vraiment dans notre horaire.
Ouais, puis j'ai un horaire super flexible, puis je me sens super chanceux. Mais il y a aussi eu des années où j'avais zéro flexibilité, puis c'était juste du matin au soir, là, puis je prenais ce que je pouvais, là.
Ouais, ben dans les années que je t'ai connue, probablement.
Ouais.
Ouais.
Ouais, c'était les années grises, là, les années rough, là, comme on peut dire.
Puis là, maintenant, justement, t'accompagnes, tu sais, peu importe. Peux-tu nous parler un peu de la clientèle des gens que t'accompagnes présentement?
Ben, j'accompagne autant les gens qui ont un besoin vraiment spécifique de A à Z en termes de préparation, que ce soit au niveau de la musculation, d'où j'ai une expertise puis un biais vraiment particulier. Puis j'accompagne aussi des athlètes qui ont déjà, mettons, un entraîneur en préparation physique spécifique pour leur volet musculation. Moi, c'est là où j'ai trouvé un petit peu une opportunité, là, il y a une couple d'années, c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs qui avaient soit une expertise ou l'autre. Il y a des très bons entraîneurs au niveau du volet endurance, mais à cause que ça prend tellement de connaissances juste pour ça, il y a une petite lacune au niveau du côté musculaire, prévention de blessures, même réhabilitation, développement de la puissance, name it. Alors, c'est là où ce que je me suis dit, je vais offrir ce service-là pour accompagner vraiment de A à Z. Puis là, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait certains athlètes qui avaient déjà leur coach. Donc, j'en ai des athlètes que je fais juste leur volet muscu. Puis, on peut penser que ça prend moins de temps, mais ça prend quasiment plus de temps parce qu'il faut que je regarde aussi qu'est-ce qu'ils font avec leurs entraîneurs pour justement que ça soit qu'il y ait une belle synchronicité dans tout ça.
Et ça doit être quand même un défi parce que tu t'accompagnes des gens d'un peu partout aussi. Fait que tu as l'enjeu de monter des programmes de muscu en fonction de l'équipement de la personne. Parce que tu peux pas mettre
Ouais.
n'importe quoi. Si la personne n'a pas l'équipement, elle peut pas le faire. Fait que ça aussi, ça doit quand même être un défi.
Ouais, puis c'est là que j'ai décidé de faire justement juste du personnalisé parce que quand je rencontre le monde la première fois, je regarde question comme équipement, puis je mets une grosse emphase sur voir s'ils n'ont pas accès à un gym avec tout l'équipement possible pour pas avoir de limitation, là, entre guillemets. Et quand il n'y a pas de limitation, ça devient vraiment, vraiment intéressant parce que on peut tout faire.
Très intéressant. Tu sais, justement, je voulais te recevoir parce que je trouve vraiment que tu as un beau background qui combine autant, tu sais, muscu puis les sports d'endurance. Puis on le sait, là, je veux dire, en tant que sportif d'endurance, qui sait pas que c'est important de faire de la muscu? Je pense qu'on le sait tous. Tu as nommé un peu tantôt, tu sais, quelques points du pourquoi c'est important, mais peux-tu nous en parler un peu plus? C'est quoi les raisons pourquoi, en tant que sportif d'endurance, on devrait intégrer de la muscu dans notre programme d'entraînement?
Je pense que les athlètes d'endurance, ils réalisent que c'est important après l'avoir fait assez longtemps pour ensuite voir que leurs performances ont eu un impact. Puis leurs performances peuvent avoir eu un impact pas juste sur le côté d'améliorer leur qualité athlétique, mais aussi au niveau de la prévention des blessures. Il y a rien de pire que quelqu'un qui s'entraîne super fort puis que au milieu de sa préparation ou à la fin de sa préparation, il se blesse à cause qu'il est en overreaching. Mais s'il avait fait sa musculation, puis il avait peut-être mis un petit peu plus sur le bord sa préparation spécifique, bien, il aurait pu la continuer. Puis un arrêt complet dans le processus de l'entraînement en endurance où ce qu'on veut justement tout le temps être en train de développer petit à petit peu, là, c'est vraiment des petits progrès tout le temps, mais ça casse vraiment une planification complète. Donc, le côté prévention de blessures, oui, il est là, tu sais, on le comprend tous, mais si on se blesse pas, on progresse continuellement.
Ah,
Donc, c'est là.
clairement.
Puis, passé un certain âge, tu sais, comme il y en a des jeunes là, dans la vingtaine, ils vont pas peut-être négliger le côté muscu parce qu'ils font juste des choses qu'ils aiment. Ils aiment courir, ils aiment pédaler, ils aiment nager, puis ils vont juste faire ça. C'est correct à un certain niveau où ils récupèrent vite aussi quand ils se blessent versus quelqu'un qui a 40 ans et plus. Et de là, l'importance encore plus on est vieux, plus de le faire. Mais si on a commencé plus tôt, on a des acquis. Et ça fait aussi qu'on vieillit plus vite. Puis quand on arrive à faire de la musculation, quand on a 40, 50 ans, on a moins à rattraper. On a déjà du bagage.
Ouais, je comprends. Toi, tu parles de. Ça m'amène à penser à un point super important parce que tu as dit, tu sais, des fois, dans la vingtaine, les jeunes vont faire un peu ce qu'ils aiment. Ils aiment pédaler, ils aiment nager, ils aiment courir, ben, ça va être ça, puis ils vont se concentrer là-dessus. Mais tu sais, justement, moi, j'en ai des clients là, qui vont me dire, j'aime pas ça, faire de la muscu. Comment qu'on fait pour apprendre à aimer ça? Parce que je pense que c'est tout à fait possible d'avoir un programme de muscu adapté puis d'avoir du fun à le faire, là. Fait que, tu sais, as-tu des conseils à donner pour ça?
Ben oui, c'est sûr que faut voir c'est quoi la priorité dans le temps.
Ouais.
Puis évidemment, il y a 1 million d'exercices qui existent. Puis c'est vraiment c'est là le défi. Le défi, c'est de trouver la bonne progression, puis trouver c'est quoi les exercices qui vont être les plus efficaces pour le moins de temps possible. Parce qu'évidemment que je pourrais programmer 15 mouvements dans une journée, mais si je raffinais un peu plus mes recherches, puis j'y allais en ordre de priorité, ben là, on trouverait vraiment qu'est-ce qu'on a besoin de faire, puis mettre maximum d'énergie là-dedans. More isn't always better, better is better. C'est vraiment la qualité de ce que tu vas faire. C'est un petit peu comme du junk volume en endurance, tu sais. Courir, 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 courir. Mais si tu minimises le volume puis tu maximises sur la qualité des entraînements, c'est là où ce que tu vas sauver du temps. Puis aussi au niveau de la progression, je veux dire, moi dans mes planifs, moi je vais jamais faire la même planification de muscu plus qu'une fois par semaine. Puis je vais jamais la faire plus que 3 fois. Ou même 4 à la limite quand c'est quelqu'un qui commence vraiment au niveau de la muscu. Donc, à travers un cycle d'entraînement, mettons, si on regarde un 12 semaines, la plupart des gens vont faire 3 semaines avec, mettons, une à deux muscu complètement différentes à chaque semaine, puis évoluer de là. Puis même d'une semaine à une autre, il va y avoir une variété dans les séries ou dans les répétitions si nécessaire. Puis ça fait en sorte que quelqu'un qui a un programme de 12 semaines ou même 6 mois, puis c'est la même chose, ben c'est motivant parce que il a hâte de finir son cycle pour justement passer au nouveau puis voir c'est
Mais
quoi les
oui.
nouveautés qu'il va faire, c'est quoi les nouveaux exercices. Même si c'est le même style de mouvement, au moins la variété change, puis tu es constamment aussi en train de t'adapter à une nouvelle variation.
Ouais, fait que je suis sûre que, tu sais, bon, il y a l'aspect, ben, c'est le fun parce qu'il y a de la nouveauté, il y a de la variété, mais je suis persuadée qu'au niveau progression, niveau endurance et tout, si ça a un impact, là.
Ouais, 100%. Puis tu sais, si on regarde juste, mettons, un mouvement de haut du corps, là, comme le bench press, mettons, là, c'est quand même un classique, ben on va pousser dans un axe. Si on regarde un autre mouvement comme un overhead press, ben on va pousser vers le haut. Fait qu'on a un angle, puis on a l'autre angle au-dessus de la tête. Mais tous les autres angles, ils n'ont pas été travaillés. Fait que si dans une planification d'entraînement, mettons sur 12 semaines, on prévoit pendant 3 semaines de temps, on va faire des presses d'un angle, puis un autre 3 semaines d'un autre angle, puis une autre 3 semaines d'un autre angle, et sur 12 semaines, on va avoir travaillé tous les angles. Fait que non seulement on a de la variété, mais on est toujours en train de développer un angle différent. Puis au bout de la ligne, quand on répète ces angles-là, année après année, ben c'est là que le développement il se fait.
Ah, super
Puis
intéressant.
ça change le mal de place, ça nous fait découvrir des nouveaux muscles aussi, là.
Oui, tout à fait. Puis tu as parlé de cycle d'entraînement, tu sais, par exemple, sur 12 semaines. Comment tu vas planifier les entraînements de muscu en fonction justement des objectifs de saison? Tu sais, quelqu'un qui se rapproche d'un objectif A, est-ce qu'il va avoir une différence au niveau de ses muscles? La fréquence va-t-elle changer, la durée ou pas tant? Y a-t-il quelque chose à planifier différemment?
Le classique, c'est vraiment un 12 semaines où justement ça va être broken down à travers plusieurs étapes différentes. Le classique, c'est 3 de 4 semaines. Moi, je suis plus du 4 de 3 semaines. En off-season, c'est parfait parce qu'on peut vraiment maximiser sur un bloc de développement de la force, puis de la puissance, puis de l'hypertrophie. Tu sais, c'est toutes des choses auxquelles on travaille. Dépendant des forces et faiblesses de la personne. Mais plus on est proche d'un événement, puis quand on regarde un peu plus l'année, dépendant le temps qu'on a, on va peut-être faire des blocs de 8 semaines ou même de 4 semaines, dépendant de qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que pendant les 4 semaines aussi, plus on est proche d'un événement X, qu'on va faire de la muscu, peut-être que ça va être juste de l'activation. Fait qu'on n'est pas en développement, on est juste en train de réveiller les muscles puis de les garder actifs pour justement être toujours constamment dans le comprendre comment on utilise tous nos muscles, si on veut. Donc, c'est pas des mouvements, puis c'est pas des entraînements qui vont nous raquer, entre guillemets, ou qui vont
Ouais.
faire mal à notre performance un peu plus tard.
OK, parfait, intéressant. Puis, tu sais, je suis curieuse de savoir, c'est sûr que les gens qui écoutent le podcast, c'est beaucoup des coureurs sur route, des coureurs entre elles. Mettons que tu accompagnes, tu sais, il y a des gens qui vont faire les deux, il y a des gens qui vont faire que de la route, des gens qui vont faire que de la trail, mais est-ce qu'il y a des choses à aller travailler au muscu, en muscu, différents selon, tu sais, si on fait de la course en trail versus sur route?
Absolument. En fait, les coureurs de trail, c'est probablement ceux qui ont besoin de plus de faire de muscu à cause du dénivelé, puis ils vont pas tout le temps être en train de courir, évidemment. Puis plus la distance est longue, plus c'est important de faire de la muscu parce que on a juste 24 heures dans une journée. Puis en termes de préparation, du moins pour 80% du monde, on va jamais vraiment faire en préparation. Mettons qu'on fait un 100 kilos, on va jamais vraiment faire 80 kilos en préparation la semaine d'avant, là. Ça nous briserait un peu trop. Donc là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aller développer du volume nécessaire, mais de complémenter avec la muscu pour justement avoir des jambes assez fortes. Il y a l'aspect concentrique, puis il y a l'aspect excentrique de la chose. Donc en gym, quand on va faire à la limite une fente ou un squat ou plein d'autres mouvements, qui peuvent exister, on va pouvoir travailler justement avec ces contractions-là. On va travailler les contractions au complet, dans les amplitudes complètes du mouvement, ce qui n'arrive pas en course. On peut la travailler quand on descend une côte, on peut la travailler quand on monte une côte à répétition, mais ça n'aura jamais le même effet que si on le fait dans le gym à répétition. Donc, on parlait tantôt là, justement de sauver du temps, là. Ben ça s'en est, là. T'sais, 1 heure de gym va peut-être des fois être plus payante qu'une sortie de course,
Ah, c'est vraiment intéressant. Puis je pense
là.
à quelqu'un, je me reconnais un peu là-dedans, là. Quelqu'un qui n'a pas accès à bien grosses montagnes là, pour aller faire du dénivelé.
Ouais.
Y a-t-il
Exact, ça
possibilité
aussi, c'est
justement de
un autre bon point.
compenser? Oui, justement, la muscu, peux-tu venir compenser un peu ça, le fait de pas trop faire d'entraînement en des plus, des
Oui,
moins,
bien,
en
ça
dénivelé?
c'est un autre excellent point. Si tu habites en ville ou si, mettons, tu habites à quelque part qu'il n'y en a pas de dénivelé, puis que la seule manière d'aller en chercher, c'est vraiment de voyager à la limite la fin de semaine pour les gens qui travaillent, ben c'est ça. Ben ça va être de faire de la muscu puis de le jumeler avec la course dans ta semaine. Des fois, avoir 2 sessions dans une journée où ce qu'on priorise la muscu une journée puis on fait une séance de course en fin de journée, à un rythme un peu plus facile. Puis à l'opposé, avoir une session de course de qualité le matin, suivie d'une muscu le soir. Peut-être aussi justement parce que la muscu va être moins la muscu prioritaire, mais on travaille les deux aspects différents. Puis dépendant de quand qu'on le fait dans l'année aussi, ça devient plus ou moins pertinent, là.
Puis à quel moment on devrait le faire pour que ce soit pertinent?
En off-season, je dirais que la priorité pourrait être la muscu. Puis en on-season, ça serait justement la qualité. En premier, c'est la course. Donc, AM course, PM muscu.
Parfait.
Jouer avec les choses aussi autour, là, qu'est-ce qui fait qu'on se sent mieux? Puis qu'est-ce qu'on. Tu sais, chaque personne est un peu différente. S'il y a une personne qui sent qu'il y a plus de progrès à tout le temps faire sa muscu le matin ou avant sa course, ou du moins faire un entraînement combiné. Tu sais, échauffement de course, muscu, puis une autre course pour finir la séance. Ça, c'est une autre bonne option, mais qui est un peu plus time-consuming.
Ouais, ben c'est drôle parce que c'était ma prochaine question par rapport à ça. Tu sais, je voulais te demander s'il y avait des avantages à faire ça à la place de faire deux séances séparées, à les faire coller, ou si on peut avoir des avantages des deux options, là.
Coller, je finirais avec la course. Où justement la priorité est pas de courir, mais bien de faire du développement musculaire. Si on court avant, mais évidemment, on a fatigué le système un peu, donc un peu moins favorable.
Je trouve ça intéressant ce que tu nommes parce que, comme je disais, moi je le vis ça, là, parce que j'ai accès à une petite montagne, en fait, je peux pas appeler ça une montagne, là, une butte, disons, de 90 mètres, des plus sur genre 1 km environ de montée, là. Fait que c'est ça. Pour réussir à faire du dénivelé, il faut que je fasse des intervalles dans cette butte-là. Mais tu sais, c'est pas réaliste. Un, on s'entraîne pour avoir du fun, là, je pense, à la base, là. Fait que tu sais, quand tu fais des allers-retours dans une butte comme ça, je confirme que c'est ça, ça devient redondant assez rapidement. Fait que tu sais, l'avantage d'avoir des entraînements de muscu collés avec la course, je pense que ça devient vraiment pertinent dans ce contexte-là. Tu sais, moi, je l'ai vécu d'arriver en course, puis après avoir fait du dénivelé sur mes jambes, fatiguée de courir, mettons, sur le plat ou plus en vitesse, que ce soit un enjeu, là, à cause que je ne l'avais pas pratiqué, dans le fond, en entraînement. Fait que tu sais, là, de combiner course après une muscu, je pense que ça serait quand même quelque chose de pertinent,
Je
je
sais
trouve.
pas si toi t'en as déjà fait dans ta préparation justement dans ce but-là, mais juste de faire la plus haute intensité possible sur 20 à 40 secondes en montant, puis la redescendre en marchant ou en joguant pour prendre une pause assez récupératrice, puis de la refaire, mettons, à 8 à 12 fois.
Ouais, c'est pas mal
Ouais,
ça.
ça t'a
Mes
déjà fait ça.
entraînements d'intervalle dans cette butte-là, là, ça ressemble à ça.
T'as-tu déjà fait, mettons, juste de la descente, comme tu montes à pied vraiment pout-pout, puis tu descends le plus vite possible, vraiment pour travailler sur la rapidité d'excentrique?
Ouais, ça aussi, ouais.
Mm.
Avec le
Ouais, ça,
contraire aussi.
c'est une autre chose. Je pense que le deuxième, tu sais, justement, travailler juste l'excentrique, de descendre rapidement, c'est la chose que le monde font le moins.
C'était quoi l'avantage de faire ça?
Ben, tu loads le quadriceps excentrique tout le temps. Mais tu apprends au pattern, au corps de bouger rapidement, puis pas juste freiner. Ou
Ok,
du
je
moins,
comprends.
pas blow up tes quads parce que justement, t'es pas habitué.
Ouais, je comprends. Ok, super intéressant. Je voulais qu'on parle un peu de CrossFit aussi. Parce que c'est quelque chose en tout cas, du moins moi, chez mes clients, je vois ça souvent, les gens qui vont me dire je fais de la course et ma muscu, c'est du CrossFit. Fait que est-ce que c'est possible de combiner CrossFit et ces sports d'endurance ou course à pied, que notre muscu, ça soit vraiment le CrossFit? Je te vois sourire.
Ah, oh, mon Dieu, je ne veux pas me faire des ennemis, là.
Mais non!
Ça se fait. Est-ce que c'est optimal? Non. Ça se fait, mais le problème, c'est que. Ben, le problème. La qualité du CrossFit, c'est que quand on met les pieds dans un cours de CrossFit, qu'on est rigoureux à l'entraînement, on voit du progrès parce qu'on va chercher de la variété. Mais c'est aussi le problème à si on s'entraîne pour la course spécifiquement.
Ouais.
Il y a déjà cette variété dans les entraînements de course qu'on va faire. Ben, du moins si t'es pas tout le temps en train de faire des easy runs ou des intervalles. Mais le fait de jamais travailler les mêmes exercices sur au moins une période de 3-4 semaines, ben, t'as pas le même développement ou tu sais, t'as trop de variété rendu là. Puis l'intensité est aussi un facteur. Les sports d'endurance, c'est qu'on bouge beaucoup. Il y a énormément d'entraînement, il y a énormément d'heures qui sont mises là-dedans. Si toute l'intensité est mise dans un workout, par exemple, qui est à très haute intensité, mais comment est-ce qu'on peut aller chercher un entraînement de qualité, d'intensité, quand c'est le temps à la course, par exemple?
Ouais.
C'est presque impossible. T'sais, on est tout le temps en train
Je
de se
comprends.
drainer, il n'y a plus d'énergie.
Ouais.
Puis c'est ça, on peut jamais vraiment prévoir qu'est-ce qu'il y a dans un cours de CrossFit parce que c'est supposé d'être ça. C'est supposé d'être tout le temps nouveau avec une nouvelle variété. Donc, ça peut le faire, sauf qu'il y a des risques.
Ouais. C'est quoi
Il y a
les
des risques de
risques?
ne pas performer à la bonne endroit au bon moment.
Ouais. Tu penses-tu qu'il y a un plus haut risque de blessure aussi, étant donné que l'intensité CrossFit, généralement, tu sais, c'est quand même élevé, là?
Il y a un risque plus haut de blessure si l'athlète de course a énormément de volume dans le corps, puis que le volume dans son cours de CrossFit, il n'est pas adapté. S'il est assez. Si l'athlète se connaît bien, puis qu'il n'essaie pas de battre tout le monde dans le cours de groupe, par exemple, ben là, rendu là, je pense que ça peut être pertinent. Il peut connaître ses limites, puis s'arrêter au bon moment.
Je comprends.
Fait que dans un contexte dans celle-là, oui, mais le risque de blessure, c'est sûr qu'il peut s'élever. Même principe que. S'il fait un cours de CrossFit tout le temps, puis il va courir après, puis il n'écoute pas son corps, ben il peut se blesser en courant aussi.
Oui.
Jumeler les deux dans un contexte comme ça. C'est aussi difficile pour, mettons, un entraîneur de course à pied de comprendre pourquoi un athlète de course ne va pas progresser au bon moment ou pourquoi il y a eu des up and down dans sa planif de course. Sans savoir exactement qu'est-ce qu'il y a eu. T'sais, évidemment, là, ça devient la job du coureur de communiquer avec son coach, puis vraiment de dire à 100% qu'est-ce qu'il fait par séance. Mais une fois que c'est fait, c'est
Ouais,
comme
c'est
un peu trop
ça.
tard.
Ouais, puis tu sais, comme tu le dis, l'enjeu, c'est qu'on peut pas trop savoir à l'avance ce qu'on va faire. Fait que tu sais, ça doit être difficile dans un contexte, mettons, vraiment de cours de groupe de CrossFit. Ça doit être difficile de faire fitter, là, je sais pas comment dire, mais faire fitter les entraînements, tu sais, de course avec le CrossFit, étant donné qu'on sait jamais à l'avance ce qu'on va faire. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Là.
Non, non, 100%. Mais il y a aussi savoir c'est quoi l'objectif de la personne. Il y a plein de monde, mettons, qui veulent courir un 21 km ou puis ils veulent juste le faire. Ben, d'intégrer de la course, une couple de cours de CrossFit, même des cours de spinning, à la limite, ça va l'aider parce qu'il va devenir plus fit. Mais si l'objectif de la personne, c'est de faire un demi en tel temps, puis d'améliorer son temps de, je sais pas moi, 4, 5, 6 minutes, 10 minutes par rapport à l'année précédente ou là 3 ans quand il en avait fait un la dernière fois, ben, c'est un peu une science. Il faut s'entraîner un certain minimum pour voir c'est quoi l'évolution, puis de semaine en semaine, on développe à partir de là. Fait que c'est ça. Tout dépend vraiment de l'importance de l'objectif de la personne.
Ouais, de toute façon, tu sais, je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est le genre de truc que tu évalues en premier,
Ben
là, quand
oui,
tu rencontres un
ouais.
athlète pour une première fois, ça doit être quand même un élément super important, là. Toi, tu bâtis ton plan en fonction de ça aussi, là.
Ouais, puis ben, ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens qui vont communiquer avec moi puis qui vont vouloir que je suive une planification personnalisée, ben justement, ils ont un objectif qui est assez important pour eux que moi, je vais les guider de A à Z, que ce soit au niveau de la muscu ou que ce soit au niveau de la
Oui.
préparation spécifique des sports, là.
Puis on a parlé beaucoup de ça.
L'entraînement hybride, là, c'est comme
Ouais.
la nouvelle. Ben, la nouvelle. C'est un terme qui est comme un peu une mode. Puis on voit beaucoup de coureurs slash beaucoup d'entraînement de muscu. T'sais, ils vont s'entraîner quasiment autant en course qu'au niveau de la muscu. Mais l'entraînement hybride pour le triathlon, c'est presque impossible.
À cause du volume d'entraînement
À
des
cause qu'il
trois
y a trop de
sports.
sports dans le triathlon.
Ouais.
Juste pour dire, si mettons tu faisais chaque sport deux fois dans ta semaine, on
Ouais.
est déjà à six séances.
Ouais, c'est quand même
Puis là, si
fou.
tu ajoutes deux muscu à ça, on est à huit séances.
Mmh.
Idéalement, on court au moins trois fois dans une semaine pour réduire le risque de blessure. Donc là, on est à neuf séances. Là-dedans, idéalement, ben, dépendant de c'est quoi la distance que la personne va faire, mais idéalement, une des sorties là-dedans de vélo et une longue sortie, donc qui est time consuming. Natation, OK, c'est quand même récupérateur, tu sais, ça n'a pas d'impact nécessairement. Mais là, on est juste à deux fois. Fait que si on a quelqu'un qui est vraiment débutant à la nage, ben, trois séances va être comme la meilleure chose à faire parce que après quasiment 48 heures sans avoir nagé, on perd le feel de l'eau. Ce qui n'arrive pas en vélo puis à la course. T'sais, à la course puis au vélo, on peut prendre un 48 heures entre des séances puis c'est correct, on retrouve notre pattern, mais pas dans l'eau. Donc, c'est pour
OK.
ça qu'on ne voit pas autant le monde qui sont bons en triathlon puis qui font la méthode hybride.
Ouais.
Il y en a qui le font, mais l'objectif n'est pas nécessairement de performer dans leur triathlon. Eux, leur objectif, c'est vraiment de regrouper les quatre sports, si on inclut la muscu là-dedans, puis de l'envelopper du mieux possible dans leur. Mais ça prend du temps.
Ah, vraiment, vraiment intéressant. Fait que si je reviens à ce qu'on disait, en fait, je passe un peu du coq à l'âne. Je reviens à mon histoire de
C'est correct.
CrossFit, parce qu'on a parlé beaucoup des cours de groupe de CrossFit, mettons. Tu sais, là, je pense que c'est clair, tu l'as vraiment bien expliqué, mais disons, tu sais, toi, je sais que tu as quand même un bon background en CrossFit, là, mais mettons un athlète qui t'arrive et qui te dit on va enlever le triathlon, là, mais je fais de la course à pied, puis je veux que ma muscu, ce soit des entraînements de CrossFit, mais que ce soit toi qui me programme. T'sais, mes entraînements de CrossFit, puis que ce soit justement spécifique, puis qu'il y ait une programmation en lien avec ça. Dans ce contexte-là, est-ce que ça peut faire du sens de faire du CrossFit comme muscu?
Oui, ça peut faire du sens. Il y a des phases dans l'année qui pourraient être différentes. Quand on est en saison de course ou justement quand on se rapproche le plus possible d'une course, l'intensité serait beaucoup, beaucoup moins élevée,
OK.
puis on s'en servirait peut-être plus comme on travaillerait peut-être. T'sais, comme le WOD en tant que tel serait peut-être un peu plus court ou ce serait comme un peu plus récupérateur, si on veut. Puis justement, dans la off-season où que justement, il n'y a pas de course proche, puis on peut maximiser son intensité, ben là, tant mieux, t'sais, on peut vraiment développer ça. Mais optimalement, l'idéal, ce serait vraiment d'aller chercher l'intensité sur les entraînements de course. Puis l'avoir qu'on on peut avoir un style
Ouais.
d'approche CrossFit sur la musculation. T'sais, on peut toujours utiliser les mêmes style de workout, puis vraiment miser sur des mouvements un peu plus fonctionnels, traditionnels de muscu. Je ne sais pas si ça fait du sens.
Oui. Oui, tout à fait. Je te
Comme c'est ça,
suis.
on peut s'en regarder à la base, si ça peut être step-up, lunge,
Ouais.
bench press, pull-up, puis on fait un imam avec ça.
Ah, super intéressant.
Puis il n'y a pas de strict, c'est du strict pull-up, il y a du tempo sur le bench. On a comme vraiment overall un bon mouvement. À la limite, un peu de kettlebell swing là-dedans, contrôlé, puis on vient chercher de la dynamique, mais avec un maximum de 40 secondes par mouvement, puis tu sais, on a 20 secondes de récup, puis au moins d'un mouvement à un autre, on récupère à l'autre, puis ça peut être une chose qui est intéressante, surtout, c'est comme pour garder la motivation, là,
Ouais.
de mettons, faire la même chose qu'il faisait quand il faisait du cours de CrossFit traditionnel, vraiment. Le contexte du cours de groupe.
OK. Parfait. Puis tu as parlé de bench press, puis ça me fait penser. Souvent, quand on pense à la muscu d'un coureur, on va penser beaucoup au bas du corps, là.
Ouais.
Mais c'est quoi la pertinence de faire de la muscu de haut du corps aussi?
Ben, ouais, c'est une bonne chose que tu me demandes ça, mais tu sais, même bench press, je dirais même de prioriser des dumbbells, donc dumbbell bench press.
Ça
Parce
change quoi?
que. Ben, ça va être un peu plus. Ça va être mieux pour les épaules, en fait.
OK.
Puis on va travailler un peu plus la stabilité poignet, coude, épaule. T'sais, on va avoir une prise neutre aussi. T'sais, on peut faire la prise neutre aussi. Donc on peut travailler autour de si, mettons, l'épaule est un peu plus stiff. Puis le coureur traditionnel a un peu plus de tension. Donc c'est sûr que de le travailler dans un axe qui est un peu plus friendly, c'est mieux. Le haut du corps, la raison pour laquelle c'est pertinent pour la course. Là, je vais revenir à la trail, là, mais encore plus pertinent pour le monde qui font de la trail parce qu'ils ont tellement de stock sur eux. C'est juste pour améliorer aussi leur posture puis les habituer à avoir assez de force puis d'endurance puis de cadre le tenir. Mais pour un coureur de demi-distance ou de full marathon, mais là, encore une fois, c'est d'avoir une meilleure posture puis de moins en moins arrondir puis de finir un peu moins parce que oui, on travaille avec les jambes, mais le corps au complet travaille. Puis un coureur qui travaille avec le corps au complet est beaucoup plus efficace, il sauve beaucoup plus d'énergie.
Clairement. Ah, super.
Puis l'entraînement muscu améliore la mobilité aussi. Parce que si on fait juste de la mobilité puis on fait juste du stretching, on est toujours obligé de le faire, on n'a pas tant de gains. Sauf que si, quand on fait de la musculation de haut du corps, on va chercher des amplitudes un petit peu plus profondes, on crée un étirement, on crée une mini déchirure musculaire qui fait en sorte que ça se développe, mais ça se souvient de l'amplitude.
Ah, super. Puis là, tu parles de mobilité, là, ça me fait penser stabilité. J'imagine que ça peut être pertinent aussi d'intégrer des exercices où on travaille notre stabilité, notre corps dans notre programme de muscu.
Ben, c'est un tout, en fait. En travaillant le muscu, tu le travailles, ben, dépendant des exercices que
D'emblée.
tu as, mais trois quarts du temps, les exercices vont te requérir de stabiliser ton tronc, de stabiliser tes hanches, tout ça, surtout avec des mouvements unilatéraux. Mais encore une fois, tu sais, la stabilité du corps va avoir un impact. Peut-être même dépendant des sports, on va peut-être favoriser certains exercices de corps plus que d'autres, tu sais. Puis le corps est attaché au fléchisseur de hanche, donc pour la course, super pertinent. Pour le triathlon, je reviens à ça, mais c'est con, mais tu sais, comme surtout sur ceux qui ont des bikes de TT, être capable de faire des planches vraiment, vraiment longtemps, puis vraiment de s'habituer dans cette position-là où ils sont tout le temps sur leur coude, ben, c'est exactement le même mouvement, là.
Puis est-ce que des fois tu vas utiliser des équipements, tu sais, pour travailler dans un mouvement de muscu, la stabilité en même temps? Là, je pense à, mettons, au ballon. Genre faire des exercices de muscu, genre bench press, mettons, sur un ballon.
Non.
Pas tant.
Non, parce que on peut, oui, à un certain point, tu sais, mettons, on peut en faire un petit peu, mais le gain qu'il va avoir musculairement, ben, le gain de stabilité qu'il va avoir est très minime par rapport à ce qu'on peut gagner en enlevant l'aspect de stabilité. Donc, on peut le faire un petit peu, on va développer de la stabilité, mais de tout le temps le faire. À un moment donné, ça devient plus pertinent parce que le gain de stabilité, il arrive rapidement. T'sais, exemple, si pendant 3 semaines, on fait du dumbbell bench press sur un ballon, ben, passé ça, on va pas mal avoir topé ce qu'on peut aller chercher comme gain. On peut le refaire un peu plus tard dans l'année ou quelques fois, mais de toujours faire ça, non, parce qu'il faut aller travailler autre chose après.
Ah, je comprends. OK. Je pense que tu as vraiment bien expliqué. On comprend du moins l'importance de faire de la muscu parce que, comme je le disais au début, tout le monde le sait qu'il faut faire de la muscu, mais là, tu sais, j'ai retenu comme deux grands volets spécifiques. Le premier, ben, définitivement au niveau performance, mais je pense à quelqu'un qui n'a pas nécessairement des objectifs de performance puis qui ne veut pas faire un marathon à un nombre X de temps, il reste que cette personne-là a quand même des avantages à intégrer de la muscu, spécifiquement au niveau prévention des blessures, là. Fait que je pense que tu as très bien expliqué le tout, c'était super clair.
Mais tu sais, il faut aussi dire que c'est sûr que j'ai un biais, là, je veux dire, j'ai un biais vers la musculation, là, je veux dire, j'aime en faire. J'ai bâti pendant des années des connaissances par rapport à ça. Mais il faut aussi se rappeler que moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est du sport d'endurance. C'est d'aller faire du vélo de montagne, c'est d'aller faire du vélo de route, c'est d'aller ben, courir, c'est plus fréquent. C'est plus récent que j'aime ça, mais c'est ça que je veux vraiment faire. Mais je sais aussi que si je fais pas la musculation, à long terme, je pourrais pas faire ça. Donc, c'est comme moi, j'aime pas ça aller à l'épicerie, mais j'y vais pareil parce qu'il faut que je mange.
Ah
Fait
ouais,
qu'à un
ah, c'est
moment
un bel
donné,
exemple.
c'est à un moment donné, c'est ça aussi. Puis ce qui est. Pour ça, tu sais, comme là, peut-être que ton public va être des gens qui sont un peu plus actifs, mais tu sais, si on va plus loin que ça encore, le sport en tant que tel, c'est bien, ça fait qu'on bouge. Puis tout le monde devrait bouger, mais c'est pas s'entraîner, tu sais. Bouger, c'est pas s'entraîner. Bouger, c'est être actif. Alors, si on veut stepper là, puis regarder vraiment long terme sur comment qu'on veut vieillir, ben ça va toujours être d'intégrer de la muscu. Puis plus jeune on commence, plus facile ça va être plus tard.
Je pense que
Parce
c'est une
que ça,
très
c'est l'autre chose
belle.
aussi avec ça. Hein, vas-y.
J'allais dire, c'est une très belle façon de boucler la boucle, mais je te laisse aller. On part sur une autre boucle.
mais tu sais, c'est aussi que il y en a qui veulent pas commencer tout ça, mais moi, j'ai de l'expérience avec des clients de 40, 50, 60, j'en ai même de 70 ans. Puis dans cette gang-là, là, j'en ai qui se sont entraînés toute leur vie, puis c'est beau. J'en ai aussi qui, à chaque fois qu'on se parle, ils regrettent tant de ne pas s'être entraînés quand ils étaient plus jeunes. Mais si on ne veut pas être cette personne-là, ben, tu sais, aussi bien qu'on commence tout de suite, hein?
Ben oui, il n'est jamais trop tard.
Ouais.
Message qu'on retient aujourd'hui. Jamais trop tard pour commencer. Puis surtout, jamais trop
Non.
tard pour intégrer de la muscu. Fait que là, on va voir Guillaume intégrer de la muscu. Mais
Il y a
non,
beaucoup de bon
d'ailleurs,
monde,
je
mais
veux.
c'est ça.
Oui, puis je voulais justement. On a parlé un peu de ce que tu fais là, tout au long de l'épisode, mais est-ce que tu prends des nouveaux clients? S'il y a des gens qui écoutent, qui aimeraient avoir un coach, être accompagné, soit juste en muscu ou combiner muscu, sport d'endurance, comment qu'on fait?
Ouais, ben c'est ça. Moi, je garde quand même mon groupe assez petit parce que c'est important pour moi de toujours être disponible et toujours pouvoir répondre rapidement au monde. À chaque mois, là, d'habitude, je peux prendre au moins une à deux personnes. Des fois, je peux stretch it out dépendant de ma période d'événement. Comme le dernier mois, j'ai pas vraiment pu prendre d'autres mondes, mais tu sais, à chaque mois, j'ai au moins une ou deux places qui se libèrent de quelqu'un qui prend une pause ou de quelqu'un qui arrête justement. Si ça arrive aussi, il veut prendre un 6 mois off ou il va s'entraîner sur son bord. C'est des choses qui arrivent. Mais ouais.
Puis où est-ce qu'on peut te retrouver?
Instagram, c'est le plus facile, là. Tu peux le linker là,
Ouais, je vais le
@
mettre.
G Smith. C'est un peu compliqué parce qu'il y a comme un shift dedans, mais
Je vais mettre le lien.
je réponds vraiment vite, là. Je suis tout le temps actif sur les réseaux.
Super, t'es vraiment le fun à suivre d'ailleurs.
Merci.
Merci, Guillaume, pour ton partage. Super généreux. Je pense qu'on a abordé des sujets vraiment intéressants et aussi super pertinents pour les sportifs d'endurance. Fait que merci.
Merci beaucoup.
Merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. Un énorme merci pour ta présence sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de voir que les épisodes t'aident à mieux assembler les morceaux de casse-tête sur la nutrition sportive. Je t'invite à me laisser un commentaire sur le podcast pour m'aider à le faire connaître. Il suffit de te rendre sur ta plateforme d'écoute préférée et de descendre jusqu'en bas dans la section « Commentaires et avis ». Tu cliques sur 5 étoiles et tu me laisses un commentaire. C'est aussi simple que ça et ça m'aide beaucoup. Merci encore d'être là et on se dit à la prochaine.